Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est le énervé du jeudi, le dernier de la semaine, mais qui fait toujours coup double. Dès 18h, c'est en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis, 22h minuit, ça passe à l'antenne, comme tout le monde, et oui, Pierre Arditi. Ce soir, Pierre Arditi est en plein compromis au théâtre, à moins que ce ne soit une preuve d'amour. Deux hommes, une amitié de 40 ans, l'un est un auteur de théâtre qui ne publie pas, l'autre est un acteur au rayonnement de sous-préfecture, et c'est vous, Pierre Arditi. Une histoire d'amitié sur fond de compromis de vente d'un appartement glauque, et vous êtes rude en affaire. Pierre Arditi, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Jean Roux qui retourne à son kiosque rue de Flandre, à ses débuts à Paris, le récit d'un parcours, celui d'un jeune écrivain en devenir entre haïku et rêve de modernité. Le kiosque, c'est aussi le lieu d'un rendez-vous d'une théorie de personnages pittoresques, témoin d'un Paris qui a disparu. Jean Roux, bonsoir.
Bonsoir.
Et comme chaque jeudi, Marion Guilbeault nous a rejoint pour nous dire tout sur les nouveautés nouvelles. J'aime beaucoup la tautologie. Les nouveautés nouvelles, c'est-à-dire le meilleur des albums à venir, juste avant le week-end.
Laurent, de la pop italienne avec Ma Ihilin, du psychédélisme australien avec Pond et le retour du maître américain Kevin Morby.
Et dans le énervé, la suite, lanceur d'alerte Zorro 2.0. Vous n'aimez pas mon titre.
Très mauvais, écoutez.
Très mauvais
comme
titre.
Assange, lanceur d'alerte, sont-ce des héros manipulés?
Vous savez qu'Assange n'est pas un lanceur d'alerte.
Ben c'est pour ça que j'ai mis de côté Assange, virgule,
lanceur d'alerte. Ah oui, d'accord, je crois que c'est une imposition.
Sont-ce des héros manipulés? Vous voyez, je pose la question, je n'y réponds pas, on verra. Hein, on va pas non plus faire le débat tout de suite. Donc il y aura vous, moi, il y aura Pierre Gastineau, qui est rédacteur en chef d'Intelligence Online, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Armes de déstabilisation massive. Je vous vois faire des grands gestes devant moi, mais c'est pas à moi que vous parlez.
Non, non, c'est à la régie, parce que je trouve que votre voix a un écho démentiel.
Tant mieux,
on dirait que vous êtes dans une caverne.
Ariel Kirou,
pas forcément
lui,
celle de
est
Platon.
Un essayiste visionnaire, il sera là également. Il y aura Nicole-Marie Meyer, lanceuse d'alerte, elle s'occupe d'une ONG qui s'appelle Transparency International, qu'on pourrait traduire par Transparence Internationale.
Oh, et formidable.
Non mais je parle anglais aussi. Et Céline Boussier, lanceuse d'alerte également, elle vient de sortir un livre, je veux dire un témoignage poignant, qui s'appelle Les Enfants du Silence.
Eh bien c'est parfait, on verra tout cela tout à l'heure. Le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et ce soir, nous recevons deux hommes de lettres et de parole. Avec nous, Pierre Arditi au Théâtre des Nouveautés à Paris dans Le Compromis de Philippe Claudel, une mise en scène de Bernard Murat. C'est bien cela?
C'est tout à fait ça, oui.
Et Jean Roux avec Kiosque chez Grasset. Vous avez le théâtre en commun d'ailleurs, puisque vous avez signé quelques textes de théâtre, Jean Roux.
Écoutez, c'est pas ma spécialité. Quand
oui,
même.
Mais vous êtes essayé.
Mais c'était pour France Culture.
Ouais.
Ce sont des pièces radiophoniques.
Tout à fait. Vous vous connaissez l'un l'autre?
Ben je sais qui est Jean Roux, oui.
Oui.
Voilà, on ne se connaît pas intimement, mais Jean Roux me rappelait qu'on s'était retrouvé à une avant-première de Smoking No Smoking, et donc il m'a rappelé que tout ça avait lieu il y a 25 ans, ce qui est toujours très agréable de voir à quel point on vieillit vite sans s'en apercevoir.
Tout à fait. Mais, bon. Et le cinéma, ça continue d'ailleurs. On vous a vu dans Les Estivants il n'y a pas si longtemps, de Valéria Brunet-Tedeschi.
Oui, oui, ben, je n'ai pas l'intention d'arrêter de faire mon métier.
D'arrêter quoi que ce soit, j'ai l'impression.
Non, j'essaie de lutter pour que ça ne s'arrête pas. Enfin, à un moment donné, c'est un combat que je ne gagnerai pas. Donc, pour le moment, la seule chose que j'ai à faire, c'est à me bourrer la gueule avec la vie en attendant qu'on me la retire.
Le théâtre, c'est énorme. La dernière fois que je vous ai vu, c'était pas très loin d'ailleurs du Théâtre des Nouveautés. C'était sur le même boulevard.
Oui.
Vous faites le boulevard,
oui,
en fait.
Parce que maintenant,
Pierre
je marche plus énormément.
Il y avait le théâtre
voulez,
de la Porte Saint-Martin,
oui,
pour
Tartuffe,
le Tartuffe,
ouais.
De Peter Stein.
Ouais,
cette
ouais.
fois-ci, donc...
Oui, avec... C'est un autre.
C'est un autre. Bah, tous les registres sont permis.
Mais bien sûr, ils sont même recommandés.
Ouais. Le cinéma, c'est un petit peu entre parenthèses, j'ai l'impression, de ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe?
C'est moins présent. Mmh. Je refuse pas tant que ça, mais ça m'arrive de ne pas accepter des choses qui m'intéressent pas forcément. Mmh. J'en ai raté une qui était merveilleuse, mais bon, j'en parle pas.
Ah bah si, allez-y.
Non, je peux pas. Non, mais
c'est un
cinéaste japonais magnifique qui était couronné 25 000 fois. Qui bon, là, ça ne peut plus se faire parce que
Koreeda.
C'était pas en France.
Oui,
c'était pas en France et je joue au théâtre, donc c'est ça, c'est un des regrets. C'est pas grave. Et sinon, vous savez, le problème du théâtre, enfin, la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre, on peut y travailler jusqu'à son dernier souffle. Et au cinéma, à partir d'un certain âge, chaque les rôles commencent à se raréfier.
On peut toujours jouer un grand-père.
Bon, ça va, oui. Non, mais je vais pas me plaindre. Mais enfin, bon, c'est un peu plus compliqué. Alors bon, j'ai fait le film de Valéria Bruni, que j'aime beaucoup.
Ah ouais.
Je viens de finir le film de Nicolas Bedeau qui s'appelle une belle époque qui est un scénario absolument formidable avec Auteuil, Canet, Fanny Ardant, bon, moi d'autres. Et puis là, je vais tourner cet été le premier film de Marine Delterme, qui écrit un scénario avec Florian Zeller, qui traite de l'amitié de Clémenceau avec Claude Monet, à un moment donné où Monet a perdu la vision de
tout
la
à fait.
Couleur.
Il y a eu un excellent documentaire d'ailleurs qui est passé sur
voilà,
Arte.
C'est cet épisode-là qu'on va raconter.
Juste une question par rapport au Kore-eda, ça veut dire que vous auriez pu être le mari de Catherine Deneuve?
Je n'en sais absolument rien, puisque je n'ai pas approfondi la question, et mon agent m'a dit... Je te le dis parce que je sais que tu ne pouvais pas le faire, et donc c'est toujours, c'est pas désagréable de savoir que ce type pourrait penser à toi, mais je ne sais. Elle m'a dit le rôle est beau, tout ça, donc c'est peut-être ça. Je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. C'est une espèce de plaie ouverte.
Kiosque, retour sur vos débuts à Paris, ça c'est pour vous, Jean Rouault. Vous connaissez l'histoire, j'imagine, Pierre Arditi, Jean Rouault, dans un kiosque, rue de Flandre. Non, vous ne connaissiez pas?
Si, je savais qu'il avait été kiosque.
Ça a été la matière de plusieurs d'ailleurs.
Après, je n'ai pas lu le livre, donc mais je savais qu'il était.
Revenir sur ces années-là.
C'est un beau métier.
Beau métier, pas facile.
Ça se perd ou c'est encore, ça existe, c'est encore là, de cette manière-là.
C'est en voie de disparition, puisqu'il n'y a plus de journaux à vendre.
Il y en a quand même bien. Les kiosques sont pleins de journaux encore, Jean-Rouault.
Non.
C'est vrai que vous connaissez mieux le métier.
Une disparition
de plein de titres, c'est certain.
Quand je passe devant les kiosques, ils me paraissent familiers qu'à côté de ce qu'on tenait, qui était gonflé de journaux. Il y avait 3000 titres. Le truc tout simple, par exemple, tous les journaux étrangers qui arrivaient toujours avec un jour de retard, c'est évident que maintenant, avec Internet, les gens de Zagreb ou de Belgrade n'ont pas à attendre le mardi matin pour savoir le résultat du match.
C'est exactement ce que vous dites dans le roman. Ouais.
Donc tout ça tombe par pas entier.
Vous dites qu'Internet a mis tout le monde d'accord, parce qu'à un moment donné, il y avait le projet d'ailleurs, au niveau des kiosques, c'est que les kiosques soient comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens se servent directement et laissent de l'argent. Mais les kiosques ont été complètement vandalisés, parce que ça a commencé, on voulait supprimer véritablement le métier de kiosquier. C'est ça, Jean-Rouault?
Oui. Ils avaient mis des distributeurs dans le métro et ils ont, comme par hasard, ils ont tous explosé le lendemain.
On est vraiment en France. Et vous dites peu de temps après, de toute façon, Internet a mis tout le monde d'accord, c'est-à-dire que là, la question était réglée, tout se passait sur le net. Vous êtes quand même client de kiosquier?
Non.
Vous
non,
avez
non.
le vôtre? Ah non.
Non, 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 non. Moi aussi, je fonctionne par Internet.
Et, ah mince, ah bon?
Ben ouais.
Et vous êtes un traître?
Enfin, écoutez, si je compare par rapport à tous ces gens autour de la table, j'ai quand même beaucoup plus donné que vous.
Ah mais ça, je peux vous garantir.
Donc, ça a été une période importante de ma vie. J'ai longtemps continué à acheter de la presse. Presse papier. Et en fait, je lisais Libé, que j'achetais tous les jours. Et puis, les pages de littéraire m'énervaient. Donc, achetant le journal du jeudi,
je commençais par
retirer en douce les
cahier
pages cahier livre et de le jeter. Puis après, je me suis aperçu qu'au fond, je ne lisais que la chronique de Louis Corricchi.
Qui était absolument formidable, sur le cinéma et la télévision.
Quand ça a arrêté, je me suis dit, donc stoppé là.
Et vous en êtes où avec la presse, Pierre Arditi?
Moi, je ne fréquente pas Internet. Je suis incapable de lire quoi que ce soit sur un écran, ça m'intéresse pas, je m'en fous, ça m'emmerde. D'abord parce que souvent ça n'a aucun intérêt, et ensuite parce que je fréquente pas les réseaux sociaux, encore moins. Et je peux pas lire, moi, je suis un vieillard, donc... je suis un vieillard. Enfin, je me comprends quand je dis ça.
Oui.
La première fois que j'ai vu quelqu'un qui m'a impressionné, qui est devenu un ami d'ailleurs, c'était Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, qui était un de mes héros d'adolescence, avec Brialik, tous ces mecs-là. Alors, il y avait un grand reportage sur lui dans je ne sais plus quelle revue comme ça, c'était peut-être Match ou un truc comme ça, où on le voyait, alors il était très bien sapé, et il marchait à grandes enjambées, il sortait d'un cabriolet 203, qui à l'époque était très beau. Et il avait à la main un trésor précieux, il avait un texte, comme ça, qui était donc sans doute ou un scénario de cinéma ou un texte de théâtre, peu importe. Et pour moi, la vision de l'acteur, c'est ce mec qui marche, divinement sapé et en même temps en désordre, avec ce texte à la main qui me semblait être l'objet le plus précieux du monde. Donc, je ne peux pas. Moi, si vous me, est-ce qu'on t'envoie ça par mail? Je dis non, tu m'envoies pas ça par mail, tu m'envoies ça comme un script ou un machin, tu le mets dans une enveloppe et tu me l'envoies, je le lis. Sinon, je peux pas lire. Voilà, je peux pas lire. Alors, un livre, je ne viendrai pas à l'idée de lire le bouquin de Jean
Rouault sur le net.
Sur le net, ça n'a absolument aucun sens. J'ai besoin de la
sur
matière.
Sur une tablette, c'est impossible.
Je ne peux pas, c'est, pas une, c'est rien. C'est comme une mauvaise reproduction d'un tableau. Les gens pensent qu'ils ont vu un tableau parce qu'ils ont vu une reproduction, même quand c'est chez Skira, qui est une très bonne... très bon machin de reproduction.
De lithographie.
Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de matière, c'est un plat, il n'y a rien. Un texte, c'est d'abord... c'est tactile. C'est tactile, un texte. C'est ça. Vous pouvez pas... je suis aveugle, je lis ça en braille avant de commencer à me mettre véritablement dedans. Le truc, le mail, le machin, comme ça, au milieu de le nouveau saucisson, machin est arrivé, 10% de réduction. Voilà. Donc, je suis complètement réactionnaire là-dessus et je continue de lire des journaux papier. Moi aussi, de temps en temps, quand je lis Libération, je retire certaines pages qui m'emmerdent. Voilà, mais c'est pas grave. Et quelquefois, je lis, au contraire, des journaux qui sont pas forcément
pas trop, parce qu'il
pas forcément
plus
de ma tendance
hein,
politique, mais qui ont des pages culturelles qui me semblent parfois meilleures, comme celle du Figaro, par exemple, qui sont excellentes depuis très longtemps déjà.
On vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. Un son, le premier, c'est pour vous, Pierre Arditi. Un son de marché, de maraîcher pour vous, Pierre Arditi, la raison.
Ouais. La raison, c'est que petit, j'ai grandi rue des Martyrs, à une époque où elle était à double sens et où les poubelles passaient avec des poubelles en fer à 4 heures du matin, qui me réveillaient tout le monde, mais en même temps, c'était un signal de vie. Donc j'ai adoré ce bruit de poubelle qui dérangeait mes parents, parce que ça emmerdait, ça faisait du bruit, moi j'adorais ça. Et il y avait un marchand de 4 saisons, comment ouais. on dit, enfin un ouais, maraîcher ouais. en bas,
maraîcher, ouais.
et il y avait des petites charrettes quand même, avec les qui étaient souvent des femmes, comme ça, qui disaient, hey, les belles massalades, hey, les belles, alors qu'est-ce que tu veux mon chou, tu veux 3 pour comme. Et quand j'entendais ce bruit-là, je me disais que la vie enfin recommençait. Donc c'est un son absolument rassurant. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le fameux maraîcher qui était en bas de chez moi s'appelait Verrecchia, et l'un des membres de cette famille, qui s'appelle Guy Verrecchia, est devenu patron du GC. Et quand même, comme quoi, ça mène à tout, ce genre de commerce. Hein, voilà. Mais donc c'est une petite madeleine, quoi. Bon, ouais. voilà, je vois quand il y avait les fraises et les cerises, ça voulait dire que le beau printemps était arrivé.
Et maintenant, le printemps, c'est toute l'année.
Oui, mais oui. Enfin, il ne faut pas manger des fraises en ce moment. Elles sont pas bonnes. Il ne faut pas faire ça.
Très éco-responsable, je vois. Une autre madeleine, ça, c'est pour vous, Jean Rouault. Ça a l'air joyeux et pourtant ça ne l'était pas, c'est ça?
Non, il n'y avait pas de télévision dans la commune. Seul mon oncle en avait une, donc on allait notamment regarder la piste aux étoiles.
Avec Roger Lanzac.
Roger Lanzac, ouais. Gilles Margaritis.
Les Barrios. Les Barrios, les adorais.
Et puis, cet autre illusionniste là qui faisait que des numéros ratés là.
Garcimore?
Non,
Garcimore, c'est beaucoup
René,
plus tard.
Hein. Non. Macronet ou un truc comme ça.
Ah, ça, je connais pas.
Et donc, nous, évidemment, on adorait ça. Et aussitôt après, il y avait ce générique et on partait en courant. On ne pouvait pas imaginer une émission plus chiante que Lecture pour tous.
C'est le générique qu'on vient d'entendre.
Voilà. Oui. Et donc, alors que depuis, grâce à Internet, justement, j'ai pu revisionner des passages de Céline, etc., à Lecture pour tous, du Giono. Mais je dois avouer qu'à l'époque, ça signait la fin de la récréation.
Ça, je peux imaginer. On vous retrouve tout à l'heure, dans quelques instants, justement, ce sera le retour de la récréation. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want Harmony Hall, retour aux affaires pour les New Yorkais de Vampire Weekend. Après un long silence de 6 ans, ils reviennent.
Rendez-vous.
Ah, tu fais une présentation honnête et claire de cet appartement, tu t'apprêtes à vendre à ce type que je suis censé rassurer.
On est dans l'ancien.
Ah, j'en étais sûr. Tu vas l'entuber.
Tu te trompes. Ah. Tu t'aveugles.
Laurent Goumard.
Il faut absolument que vous vous lanciez sur les planches malgré votre âge.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Mais il n'y a pas d'âge pour jouer Pierre Arditi. La première fois sur scène, c'était à quel âge d'ailleurs? La première fois.
La première fois vraiment, 7 ans. Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, à l'école communale, Pierre et le loup. Et je jouais Pierre, j'avais le rôle principal. Je ne disais pas un mot, mais enfin, je mimais tout ça, les aventures de ce petit personnage comme ça. C'est resté gravé, parce que c'est la première fois que j'ai su ce que c'était que le trac. J'avais pas de jambes, je tenais pas sur mes jambes, je pensais que tout le monde le voyait. Mes jambes tremblaient, en réalité, personne ne voyait rien, bien sûr.
Vous l'avez encore?
Le trac?
Ouais.
J'ai quelque chose d'autre.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est pas tout à fait le trac. Bon, on va pas faire de fausse modestie. D'ailleurs, je ne suis pas modeste. Je suis très humble, mais je ne suis pas modeste. Modestie m'emmerde. Alors, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis dit, quand je vais rentrer en scène, les mecs vont dire qu'est-ce que ce type fout en scène. Ils vont me balancer des tomates et je vais me barrer. Bon, puis quand même 50 ans plus tard, jusqu'à preuve du contraire, ils viennent aussi pour me voir. Donc, je vais pas dire oh là là, mon Dieu, j'ai peur. Alors, d'abord, il y a 50 ans, j'avais peur d'eux, et maintenant, j'ai peur de moi parce que eux, ils viennent. Ils viennent aussi pour voir ce que je fais,
si ah,
un truc
bah,
comme ça. Façon, donc, oui. j'ai peur de ne plus avoir assez peur pour être suffisamment vibrionnant enfin, je veux dire, être performant pour employer un mot que je déteste d'ailleurs, de pouvoir aller véritablement là où j'ai promis que j'irais. Bon, donc ça s'appelle pas le trac. En même temps, j'ai appris avec le temps, parce que ça, quand même, c'est très important pour un acteur. J'ai appris à prendre des risques, y compris quand les choses marchent, et à m'amuser à bouger pour voir si par hasard elles pourraient marcher autrement en allant quelquefois dans des zones plus étroites, plus délicates, plus difficiles, plus ceci, plus cela, plus exigeantes. Puis quelquefois, comme tous les acteurs du monde, je ne résiste pas au fait de faire rire les gens qui sont en face ou de les tenir dans le creux de ma main parce que je les émeus. Et par conséquent, je retombe sur des marques que je connais déjà. Mais enfin bon, donc c'est plus c'est plus, ça s'appelle plus le trac, ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je me pose plus de questions. Je continue de m'en poser, mais pas pendant que je joue. Après.
Vous êtes sur scène, donc, au Théâtre des Nouveautés à Paris avec Michel Leb et Stéphane Pézra.
Oui. Formidable. Et...
Formidable.
Ah, eh ben, je sais,
formidable.
C'est emmerdant parce qu'il nous, il nous fait un tort considérable avec la marée.
J'avais bien l'impression.
Non,
bah,
non, déconne, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais maintenant, on l'a mis en scène des saluts avec lui parce que comme il vit, vraiment, il est formidable.
Ah,
vraiment
il tire son épingle du jeu. Comment? C'est vrai, parce qu'il tire son épingle du jeu.
Il tire pas son épingle du jeu. Il est absolument formidable. Le rôle est un très bon rôle. Mais enfin, il est un très bon rôle. Il est encore meilleur parce que c'est lui et qu'il est génial. Bon. Et donc, les gens nous aiment beaucoup. Ils adorent le couple très bien. Mais enfin, là, ils découvrent un type qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont jamais vu et qui fait un carton. Donc maintenant, quand ils saluent, on tire la gueule et on fait comme ça. Mais
c'est et vous l'appelez au dernier moment.
Oui, au dernier moment. Et ensuite, avant-hier, on l'a même frappé pour qu'il sorte.
C'est dans Le Compromis de Philippe Claudel, mise en scène Bernard Murin, un compromis de vente, celui d'un appartement où vous avez vécu avec Sophie, qui vous a quitté pour un droguiste, vous, acteur. C'est le jour de la signature de ce compromis et vous demandez à votre meilleur ami de 40 ans, Michel Leb, un odeur de théâtre jamais joué, jamais publié, d'assister à la signature avec l'acheteur, donc ce fameux Stéphane Pézra, qui va devenir le spectateur enthousiaste de la pièce que vous allez lui jouer. Grandeur et décadence de l'amitié au programme Règlement de compte, numéro de cabotinage, souffrance du ratage. La pièce s'ouvre sur un autre duel que le vôtre, celui de Mitterrand et Giscard, juste avant l'élection de 81. Est-ce que Philippe Claudel vous a expliqué la raison de ce choix, de cette temporalité? Qu'est-ce que ça lui permettait de dire?
Ça lui permet... Comme ils ont tous les deux voté pour Mitterrand. Ils votent tous les deux pour Mitterrand. Donc, ils sont tous les deux des gens de gauche. Voilà. Et évidemment, la pièce s'appelle Compromis. Eh bien, elle s'appelle Compromis, et non pas Compromission d'ailleurs, mais Compromis tout de même. Et Claudel, et il a raison, dit qu'on passe notre vie à vivre avec des compromis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps être absolument comme une forteresse que rien ne viendrait troubler. Bon. Donc, il montre à la fois cette volonté de la justice sociale, etc. En ce moment, on est dedans. Bon, cette volonté
c'est pour ça
d'égalité,
que ça fait rire les gens,
comme ça, ouais. Bien sûr. Bon, et puis la manière dont on s'arrange avec ça, parce que quand on a des intérêts personnels là-dessus, on est prêt
à
tous les compromis, parce qu'à un moment donné, il doit vendre cet appartement, il a besoin de ce fric comme ça. Donc à un moment donné, il devient un homme de gauche, un peu pas recommandable, quoi, voilà. Et alors l'autre, d'ailleurs, ne l'est pas plus, mais d'une manière différente, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est à partir de là qui tient son truc, et puis à partir de là, il développe quelque chose d'autre. Il y a là-dedans, d'ailleurs, quelque chose qui ressemble un peu à Pour un oui ou pour un non.
Et de Nathalie Sarraute.
Voilà, alors bon, c'est très différent, c'est autrement, mais il y a une morphologie qui est un peu mitoyenne, quoi. Voilà.
Vous jouez des amis de 40 ans.
Oui.
Est-ce que vous en avez dans le métier des amis de 40 ans?
J'en ai même un ami de plus que ça, oui, qui est mon metteur en scène, Bernard Murat.
Bernard Murat?
Oui, c'est un ami de 55 ans. Voilà. Et qui tient toujours. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, c'est comme ça. J'en ai pas beaucoup, hein. C'est le plus ancien. Il y en a un autre qui est Jean-Luc Moreau, qui
metteur en scène aussi de théâtre.
Oui,
enfin, acteur, metteur en scène,
oui.
Bien sûr,
oui. Acteur aussi, et qui n'est pas loin de ça, non oui. plus. Et puis j'en ai quelques autres, même ma copine Azéma, mais enfin bon, c'est pas 50 ans, Azéma Dussolier.
L'équipe de René, ouais.
Oui, enfin c'est ça. Mais ce sont de vrais amis, même si, alors bon, Murat et Jean-Luc, on se voit quand même pas mal, mais Sabine et André, par exemple, qui sont des gens qui font vraiment partie de ma vie, on se voit pas forcément beaucoup, quoi. Mais on est liés par René, mais par une amitié, une véritable amitié aussi.
Jean Rouault, vous avez ça aussi, des amitiés
Pas du tout.
Jean Roux n'a pas d'amis. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien, vous comprenez, voilà, puisque vous qui nous
pourtant
écoutez.
Pourtant, vous êtes habillé pareil, ce serait
alors,
formidable.
Il est habillé pareil. Oui, normal. Eh bien,
voyez. Oui, il essaye d'avoir des amis.
Ce garçon n'a pas d'amis. C'est quand même très emmerdant. Il ne lit plus la presse papier. Et il renie ce qu'il a été. Et maintenant, il est sur le net. Comment on peut faire?
Il n'écrit pas ses livres, en plus.
Non, bien sûr, tu parles. C'est vrai, Jean Roux?
Non, ouais, c'est vrai.
Un solitaire?
Ouais, assez. Non, mais j'ai des relations privilégiées, donc notamment. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la relation amoureuse, et que à côté de ça, le reste existe peu. Comme ça. Alors j'ai deux ou trois confidents, mais qui sont là comme confidents et qui ont évidemment aussi des choses à raconter du même ordre. Mais les amis pour débattre des grandes questions d'actualité, bof, non. Pas trop.
Non, mais on peut avoir des amis avec lesquels on ne débat pas des grandes questions d'actualité.
Oui, mais je sais pas,
question amoureuse. On peut parler de Pinard ou de...
Ça, vous êtes un spécialiste.
Bah, je ne l'ai fait pas dire. Oui, j'ai oublié Berléand, tiens, dans la liste de mes amis.
Alors, je voulais vous faire écouter un son que vous nous avez proposé.
Chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre.
Un son qui résonne avec l'actualité,
ah bah,
Pierre Arditi.
Oui,
on est au Parlement européen en 95,
ouais,
Mitterrand.
Oui, ouais, je me souviens de ce discours comme s'il avait lieu hier. Et il est d'actualité, comme rarement quelque chose est d'actualité aujourd'hui. Oui, le nationalisme, oui, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est pour ça que, bon, il faut défendre l'Europe, même si elle est imparfaite. En tout cas, ça, c'est absolument indispensable. Et elle est attaquée de tous les côtés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer. Il y en a. La preuve, c'est qu'à un moment donné, un certain nombre de gens se déconnectent d'elle parce qu'elle ne répond peut-être plus à ce que les peuples demandent. Mais enfin, on voit très bien où c'est en train de dériver et où ça a déjà dérivé dans certains pays. Alors, on disait le nationalisme, c'est la guerre. Eh bien, peut-être que le populisme aussi, ça peut l'être. Donc, il faut entendre les peuples. Et quelquefois, vous connaissez la célèbre phrase de Victor Hugo, « La foule, c'est l'ennemi de l'homme ». Eh bien, je pense un peu ça aussi.
C'est bizarre, voilà. Ça me fait penser qu'à votre place, il y a quelques jours, il y avait André Wilms, qui, justement, était absolument terrorisé par ce qui se passait aujourd'hui dans la rue, et notamment par le peuple qui dit « c'est nous le peuple », et donc par le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez une position similaire?
Je ne suis pas terrorisé, mais je suis inquiet, en tout cas. J'ai une position... Je peux être tout à fait solidaire de la plainte d'une partie du peuple, qui est le nôtre, à partir du moment où ce peuple n'arrive plus à vivre décemment, correctement, de ce qui, en principe, devrait le faire vivre, c'est-à-dire de son travail. Je suis totalement solidaire là-dessus. Quand ça commence à déborder sur quelque chose d'autre, qui ressemble à un discours qui, alors lui, est extrêmement dangereux, évidemment, je ne le suis plus. Et je tiens à dire quand même, tout en, encore une fois, comprenant et respectant ce qu'une partie de ce peuple des Gilets jaunes demande et fait savoir, eh bien, je pense quand même que là, il y a un danger qui court, qui est sous-jacent et auquel... N'en déplaise aux esprits chagrins, il faudra répondre par le fait qu'on ne peut pas regarder des gens, une partie de ces gens, pas tous, bien entendu, s'en foutent beaucoup, heureusement d'ailleurs, qui sont prêts à détruire la République. Dans ces cas-là, il faut aussi descendre dans la rue sans gilet jaune et dire qu'on est contre, il faut prendre son courage à deux mains et il faut le faire. Ça rappellera des temps où je descendais plus facilement dans la rue qu'aujourd'hui, mais là, si il faut le faire, je le ferai encore une fois. Je ne jette pas l'anathème, parce que là-dedans, évidemment, il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y en a, beaucoup. Mais il y a une partie de ça qui n'est pas acceptable. Alors, je ne peux pas dire autre chose.
Jean Rouault, sur ce sujet.
Ce matin, il y avait deux augmentations. Augmentation du prix du tabac, qui touche évidemment les plus défavorisés, les plus démunis, parce que ce sont ceux-là qui fument, ce n'est pas dans les... Et augmentation de la taxe sur les abris de jardin.
Sur les abris de jardin?
Oui, oui. Alors là, on voit bien aussi que ça touche qu'une certaine catégorie qui n'est pas celle des beaux quartiers, en fait. Donc, le faire semblant d'entendre une revendication qui est légitime, comme vous le dites, parce que quand on descend dans la rue comme ça, c'est qu'on n'y arrive plus. Spontanément, quand ça va bien, il n'y a aucune raison de s'emmerder à défiler. En plus, à rester des heures dans le froid, là, au milieu d'un rond-point. Donc, ça veut dire que cet acharnement dit quelque chose de profond. Hein. C'est un vrai soulèvement. Après, on voit bien que comme derrière, il y a pas d'organisation, il y a pas non plus une pensée politique. En 68, il y avait une pensée politique.
Hein.
Là, il y a rien. Alors, ce qui fait qu'évidemment, les extrêmes en profitent pour déborder ça et récupérer le mouvement. Et ils vont se retrouver à faire des listes pour les européennes où ils vont se faire massacrer parce qu'on va leur poser des questions sur le G20, sur la Corée du Nord, sur la Syrie, sur le GPA, etc. À quoi ils ne sauront pas répondre parce qu'ils n'ont pas été préparés pour ça. Et donc ils vont se disqualifier Et je pense que c'est à ça qu'on l'épouse d'une certaine manière. Et le mouvement se disqualifie de plus en plus, et alors que leur contestation première, qui était sur cette hausse des taxes
du carburant,
sur le pouvoir d'achat,
qui a été arrêtée suite à une manifestation, en fait, en douce, là, maintenant, c'est les cigarettes, les abris de jardin. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose, je trouve, de déprimant. Vous avez cette manifestation là qui hurle qu'on n'en peut plus là, parce que d'être ponctionné comme ça un petit peu de tous les côtés, on n'y arrive plus. Et on dit oui, c'est vraiment je vous ai compris quoi. Et en douce, paf, abri de jardin. Tous ces gens-là ont des abris de jardin. Tous.
Mais peut-être il y a encore une petite chose, c'est que il y a là-dedans, c'est Bercy qui décide tout ça, non ? Je dis une bêtise.
Ah, c'est Bercy, hein ?
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des questions à se poser sur le pouvoir politique et de l'exécutif qui tendrait à dire peut-être quand même qu'il va falloir calmer un peu les imaginations des habitants de Bercy ? Parce que, ça, c'est, effectivement, moi je ne savais pas ça. Enfin, ça, c'est pas possible. À un moment donné, on est arrivé au sommet du sommet du sommet de ce qu'on peut prélever sur le salaire de gens qui, déjà, n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils ont. Bon, alors, il faut arrêter que les abris de jardin, les machins, puis à un moment donné, ça va être, il y aura une taxation sur la traversée d'une rue, ou
si on monte. Passage piéton.
Bon, faut arrêter. Voilà, à un moment donné, c'est pas possible, tout ça. C'est pas possible, hein.
Je vous propose tout de suite, rien que pour vous, Pierre Arditi, le questionnaire 100% France Inter.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous, vous savez, ça c'est normal.
Mais tellement rare aujourd'hui.
Alors, le questionnaire 100% France Inter, ce sont des questions des stars de la chaîne, des questions qui ont déjà servi, donc d'autres y ont répondu, mais nous on les recycle, on est éco-responsables.
Des stars de la chaîne ?
Oui, il y a des stars dans la chaîne, vous savez, Augustin Trappenard.
Ah oui, oui.
Laura Adler.
Oui, bien sûr.
Trois questionnaires, vous choisissez le vôtre. Strictement personnel, Agent Trouble ou Bonjour l'angoisse, des titres qui vous sont familiers.
Ah. Allez, strictement personnel, au point où on en est, autant se déballer.
Sinon, première question, oui. Augustin Trappenard.
La première fois que vous êtes vu sur un écran, vous vous souvenez ?
Oui, je me souviens. Et c'est un mauvais souvenir, qui restait mauvais d'ailleurs, par la suite. C'était dans un court-métrage de fin d'année de l'IDEC, réalisé par un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Derry Berkani, qui était d'origine algérienne, et kabyle d'ailleurs, et j'ai vu pour la première fois mon visage, et ça m'a horrifié. Et je ne me suis jamais départi, je ne me suis jamais isolé de ce sentiment qui est resté extrêmement prenant. Je n'aime pas ma tronche, je l'ai toujours dit, et j'ai continué de ne pas l'aimer. Alors, avec le recul, quand je me regarde à 50 ans, je me dis, je suis con, j'étais pas mal quand même. Bon, et maintenant, évidemment, je me déteste. Mais si j'arrive encore à aller à 90 balais, quand je me regarderai les photos d'aujourd'hui à 74, je me dis, mais j'étais con, j'étais pas mal quand même à 74. Bon, enfin, en tout cas, ça ne me plaît pas. Voilà. D'ailleurs, je ne me regarde plus du tout, c'est beaucoup plus simple.
Une question de Decaune.
Les ados disent souvent, je suis au bout de ma life. Alors c'est curieux d'être à la fin de sa vie, à 16 ans, mais question à la Mireille Dumas, étiez-vous ce genre d'ado ?
Ah non, pas du tout, non. Non. D'abord, je n'ai jamais parlé comme ça, grâce à Dieu. Grâce à moi, même, j'ai un grand respect de la langue, ça me plaît, ma langue. C'est admirable la langue française, j'adore ça. Donc au bout de my life, non. D'ailleurs, j'ai toujours pensé d'une manière incroyablement stupide et extrêmement prétentieuse, que le bout de ma life n'était pas arrivé, n'arriverait pas. C'est évidemment faux, mais je continue d'y croire.
Troisième question, encore Augustin Trappenard.
Quand vous êtes dans un stade et que vous regardez le public, ça vous arrive de regretter qu'un spectacle de théâtre ne parvienne pas à déchaîner ce type de passion ?
Ah non, ça je le regrette pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord quand je suis au stade, je pense pas au théâtre. Je regarde le match en question, quel qu'il soit, de foot, de rugby, enfin peu importe. Non, parce que j'aime beaucoup le foot, hein, par exemple, et j'adore le rugby. Curieusement, d'ailleurs, d'un côté, on croit que le sport est un sport de brut, et pas du tout, c'est le rugby. Et de l'autre côté, on croit que c'est un sport de grand sein, et c'est un sport qui, très honnêtement, ne m'emballe plus beaucoup aujourd'hui, parce que je pense, le fric a tout corrompu, à mon avis. Enfin bon, peu importe. Voilà. Mais il y a des réactions d'hystérie collective. Je reprends la phrase d'Hugo, la foule est souvent l'ennemi de l'homme. Eh bien, quand je suis dans un stade, quelquefois, je croise cette foule. De temps en temps, elle est agréable. De temps en temps, elle l'est moins. Et je bénis le ciel que ce genre de réaction n'existe pas au théâtre.
C'est Pierre Arditi dans Le Compromis de Philippe Claudel, mise en scène Bernard Murat au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 19 mai. Vous restez avec nous.
Non, jusqu'au 25 mai.
Jusqu'au 25
oui,
mai.
Oui, parce que c'est un carton, vous savez.
C'est un carton total.
Comme c'était bourré hier. Mais alors ce soir, ça sera forcément vide. Et je serai beaucoup moins bien qu'hier. Malheureux.
Pour les gens qui viennent ce soir. Jusqu'au 25 mai, on va parler de littérature tout de suite avec Jean Roux. Tout de suite, on part du côté de Perpignan, toujours au centre du monde avec le rock garage des Liminianas. Fantôme signé The Liminiana sur France Inter, la programmation Nuit Magique de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Mais c'est un bruit de merle pour vous accueillir, Jean-Raud. Pour quelle raison?
Et c'est un merle qui chantait dans les tours de Flandre.
À Paris,
dans le 18e arrondissement. Donc je me rendais au kiosque par le premier métro, donc il devait être... c'était encore l'hiver, il faisait nuit, vous vivez 5h30, 6h moins le quart, donc on peut pas dire vous pétez le feu, etc. Donc c'est un peu le moral un peu dans les talons. Et puis je sors de la bouche de métro à Crimée et j'entends ce chant du merle. Et soudain, tout cet univers de béton disparaît. C'est-à-dire, c'est soudain cette rencontre comme ça entre cette forêt de béton et ce merle qui, à lui tout seul, tient tête à cette hypermodernité, à cette dénaturalisation comme ça du paysage. C'était à la fois terrible et magnifique. Voilà.
C'est ce que l'on peut voir, ce côté terrible et magnifique dans Kiosque chez Grasset, retour sur vos débuts à Paris, libraire d'art en face du Centre Pompidou au départ. Ça, je ne le savais pas. Pour moi, c'était toujours le kiosque, mais vous avez commencé par les librairies d'art.
Oui, à Paris. Avant, je travaillais dans un journal à Nantes. Je tenais aussi la rubrique d'humeur à la une d'un journal, d'un quotidien nantais, etc. Oui. Et simplement, à un moment, j'ai cru que je pourrais composer avec tout ça, c'est-à-dire en ayant un petit travail
job,
un peu sympathique.
Mmh. Et pouvoir écrire à côté.
Et puis en plus, je faisais du piano comme ça. Donc je pensais mener tout ça à la bonne franquette. Comme ça. Et je me suis aperçu que c'est l'histoire des compromis et des compromissions. C'est qu'il y a un moment, je devais tout balayer. Si je voulais vraiment faire toute la place à l'écriture, ça voulait dire tout balayer. Et si j'ai choisi le kiosque, c'est parce que c'était ce qui demandait le moins moins d'investissement pour l'esprit, parce que la vente des journaux, c'était pas tant. C'est le seul commerce où vous n'avez pas à marchander. Vous savez, vous repartez de chez un chausseur avec des chaussures qui vous vont pas vraiment, ou l'autre a réussi à vous vendre, vous voyez, et tout. Là, quelqu'un qui passe, il veut le monde, il y a plus de monde, c'est pas grave, il va voir plus loin, etc.
Oui, donc, vous n'essayez pas de lui vendre le Figaro.
Non, bien sûr. Donc c'est uniquement un échange avec juste ce trafic comme ça entre un journal et des pièces de monnaie. Et donc, en plus, avec le sujet qui est de conversation qui est fourni par la une du journal.
Voilà, par l'actualité. Voilà. Et presque, on pourrait dire que vous êtes presque construit politiquement, en fait, pendant ces quelques années, au vu de l'actualité, parce qu'il y a plein de pages sur l'actualité de ces époques-là.
Politiquement, non, parce que quand même, j'avais deux, trois idées.
Tout oui, bien sûr.
Mais ce que j'ai découvert au cœur, c'est que tous ces gens qui venaient du monde entier, parce que c'était un quartier extrêmement populaire et nourri de tous les exils, parce qu'il y avait commencé par les pieds noirs d'Algérie, il y avait les boat people, il y avait les Yougoslaves, les Turcs, beaucoup de Maghrébins qui étaient quand même en délicatesse avec les gouvernements. Il y avait les Chiliens et les Argentins
chassés par
Pinochet et les colonels.
Tout ça est dans
c'était l'actualité du monde qui était non seulement dans la presse, mais qui était in vivo avec tous ces gens qui avaient un autre regard sur ce qui s'était passé ou sur ce qui passait que ce qu'on pouvait en lire dans la presse.
Et qui venaient démentir ou infirmer les informations.
Absolument.
Justement, déjà à l'époque, il y avait une défiance par rapport aux informations qui étaient données dans les journaux.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de défiance, mais c'est surtout que j'étais à même de voir que ce décalage entre la réalité vécue par ces gens-là et ce qu'on en disait, c'était pas mis en doute à ce moment-là. Mais c'est comme ça que je dis que la guerre de Yougoslavie a commencé devant le kiosque, parce qu'on avait bien compris que les Serbes et les Croates, ils n'étaient pas forcément très très copains, et qu'on avait tort de mettre tous les journaux en vrac comme ça, sous prétexte que c'était des Yougos. Et il y avait ce geste quand un Croate, faute d'un journal croate, prenait un journal serbe pour avoir les résultats de foot, justement. La façon dont il le prenait à deux doigts, il le jetait sur l'étal, c'était vraiment... Oui. Et il s'évitait devant le kiosque. Et puis, il y avait ces récits hallucinants dont tous ces gens partaient en vacances chez eux et me racontaient, notamment les Yougoslaves, des choses. Je pense qu'il devait y avoir déjà des nettoyages ethniques, puisque je me souviens d'un récit. Donc, on est avant la guerre Yougoslavie. On est en 88, quelque chose comme ça. Il y a l'armée qui envahit un village, les gens qui vont se cacher dans la forêt, et on saupoudre par hélicoptère la forêt de produits colorants de manière à marquer les gens qui allaient sortir, évidemment. Donc ils étaient évidemment repérables.
Immédiatement repérés comme des cibles.
Et il n'y avait pas une ligne dans la presse. Vous voyez ? Donc la guerre de Yougoslavie, je l'ai vu démarrer au kiosque par le témoignage de ces gens.
C'est dans votre livre, ça ?
Oui, il y a tout ça dans le livre. Ouais, il y a tout ça. Il y a à la fois les gens qui viennent se servir, ceux qui veulent l'Aurore ou le Figaro, alors que c'était absolument la même chose, mais il y a aussi, bien sûr, ceux qui tenaient les kiosques. Et ça s'ouvre sur le portrait de P, que vous avez retrouvé, j'imagine, dans les pages, la dernière page de Libération, c'est ça. Avec qui vous aviez travaillé pendant quelques années. Vous êtes retourné voir si ce kiosque rue de Flandre existait toujours?
Non, il a disparu assez tôt. Ils l'ont déplacé devant la bouche de métro Crimée. Et longtemps, il y a eu la dalle de béton. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, on peut m'accuser de... Vous savez, le négationnisme, c'est ça. Il raconte des histoires parce que quand on va au sein rue de Flandre,
il n'y a rien.
Donc, il a menti. Oui, donc, il a menti. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce retour au kiosque vous permet d'effectuer un retour au pays dans un autre kiosque. Enfin, ce n'est pas véritablement un kiosque. C'est le point presse des sœurs Calvez.
C'est-à-dire que... Il y a une espèce
et là, vous comprenez quelque chose de votre parcours.
Il y a une espèce de déterminisme inconscient. Moi, j'ai pensé que si j'avais travaillé dans ce kiosque, c'était pour les raisons que je viens de dire, à savoir pour avoir du temps, pour pas avoir l'esprit encombré, etc. Et pas comme les profs qui rentrent chez eux avec leur pile de devoirs à corriger.
Oui, c'est-à-dire que quand on a quitté sa classe, on continue à travailler
voilà,
chez soi.
Ça. Ouais. Donc, il me semblait que c'était le hasard de la vie qui m'avait amené au kiosque. Et en fait, en écrivant ce livre, j'ai vu ce déterminisme-là de ces sœurs Calvez, qui avait donc un petit point presse, mais vous savez, on est en campagne, c'était une table de bois avec 10 revues, et qui distribuait tous les matins à 4-5 heures le quotidien qui était soit Presse-Océan, soit Ouest-France. Et après la mort de mon père, donc il avait 41 ans, moi j'avais 11 ans, j'avais une sœur plus jeune et l'autre un peu plus âgée. Comme c'était évidemment pas très facile pour ma mère, ces deux femmes avaient imaginé de nous donner des petits illustrés dont il suffisait qu'elles arrachent la couverture et ça valait pour des invendus. Et donc on lisait ces petits illustrés Ivanhoé, Kit Carson, Sylvie. Enfin nous on se régalait avec ça et dont on ne connaissait pas les couvertures. Voilà. Et quand si on considère que devenir écrivain c'est quand même avoir son nom sur une couverture avec un titre, donc c'est comme si ce témoignage ancien comme ça des sœurs Calvez, c'est comme si j'avais essayé de réparer ma dette en mettant un nom sur une couverture.
Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que bien sûr, à travers ce kiosque, c'est l'avènement d'un jeune écrivain qui va publier, on le sait, quelques années plus tard, les Champs d'honneur. Mais à cette époque-là, et on voit non pas une idée de compromis, mais quelque chose de cet ordre-là, à cette époque-là, vous avez une autre idée de la littérature, une idée qui est travaillée par la modernité d'un Roland Barthes, par le structuralisme, et vous étiez sur le point de publier un texte qui s'appelait « Décembre.matin 2 ». Oui. Quel était ce texte? Ça parlait de quoi? C'était complètement déstructuré pour répondre aux fantasmes littéraires que vous aviez de cette époque?
Alors, c'était ça répondait à tout ce formalisme des années 70, et texte dans lequel c'était un fourre-tout immonde, mais qui avait quand même intéressé un éditeur de Noël, et c'est moi qui ai refusé. C'est-à-dire qu'ils l'ont accepté, j'ai dit non, c'est bon, ok, j'ai eu ce que je voulais, un retour sympathique, donc ça me suffisait. Mais j'avais bien compris que j'avais pas d'autre solution que de devenir vraiment romancier, c'est-à-dire raconter une histoire qui se passe à tel endroit, avec tel personnage,
et qui n'ont pas joué la carte de la déconstruction, la mort de l'auteur, la mort du roman et la mort du lecteur.
Et alors, il y a une rencontre ayant capitale dans ma vie, c'est celle de Jérôme Lindon, l'éditeur des Jours de Midi, à qui j'avais envoyé un court texte comme ça, et il m'a reçu en me disant qu'il ne publierait pas ce texte-là, mais il m'avait envoyé un mot qui était « il y a là l'amorce d'une œuvre forte ». Et un mot que j'avais complètement nié et oublié, et que j'ai retrouvé mais il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Et donc, avec toute sa morgue comme ça, il m'avait engueulé pendant 2 heures pour m'expliquer que tout ça c'était des conneries, c'est-à-dire la modernité, alors que c'était lui qui était censé...
Ah ben quand même, Beckett
voilà. Mais comme il avait déjà publié ça, ça n'intéressait plus, c'était déjà fait quoi. Et il m'a dit, vous n'êtes pas penseur, vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas essayiste, vous êtes romancier. Et donc il y avait cet homme qui quand même me envoyait en l'air toutes mes prétentions, mais m'adoubait comme romancier, voilà. Et d'un autre, je ne sais pas si j'aurais pris ça de la même façon, mais lui, qui incarnait cette modernité littéraire, il me disait, ben vous racontez une histoire, il m'a dit, de ce texte-là, vous en faites un roman. Voilà. Et c'est comme ça que
les Chants d'honneur sont arrivés. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on peut lire cette langue dans kiosque chez Grasset. Vous restez avec nous, Jean Rouault et Pierre Arditi. Tout de suite, la dernière partie de la première partie du Nouveau Rendez-vous. C'est toujours un peu difficile à raconter, avec les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
Rendez-vous. Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
C'est parfois la même chose. Mais non, Marion Guilbeault. Des policiers et des musiciens.
Alors, avec une carte postale, ces nouveautés nouvelles, une carte postale sonore qui nous vient de Rome. Elle a été envoyée par Mai Lini. Alors, avec tous ces i, on croirait que c'est italien, et pas du tout, c'est de l'hawaïen. Ça signifie nouveau venu, novice. Et c'est le cas de ce duo à la ville comme à la scène, formé par Gian Paolo Speziale et Federica Caioso. Alors, tous les deux, avant de se connaître, ils ont fréquenté les plateaux de cinéma, de télévision, dans leur pays, mais c'est la musique qui les a rapprochés en 2015. Depuis, les tourtereaux ne se sont pas quittés. Ils ont beaucoup voyagé en Europe avant de se poser pour une longue retraite sur l'île de Vulcano dans l'archipel des Éoliennes pour écrire un premier album intrigant et fragile. Alors avec un cadre pareil, bien sûr, entre volcan et mer, leur pop ne pouvait être que cinématique, entre feu et spleen. Et quand on écoute les 10 chansons de cet album, on a vraiment la sensation d'être au cœur de la dynamique émotionnelle d'un jeune couple. C'est honnête, c'est naïf et c'est éminemment romantique. Mai Lini, A House on a Boat, c'est extrait de leur premier album Hopefully Again qui sort demain chez Memphis Industries. Vous écoutez de la musique, Jean Rouault, Pierre Arditi?
Oui, beaucoup. Enfin, oui, moi oui, lui aussi je pense, j'imagine. Oui. Pas forcément ça, mais... non, mais je n'ai pas de... Non, pourquoi pas.
Oui. Mais en plus, c'est une...
Mais il a composé des chansons.
Oui,
pour Johnny Hallyday, pour Juliette Gréco, pour Jean Guidoni.
Ah, ouais. Gréco, quoi alors?
C'était pour vous aimer. C'est une très belle chanson.
Ah, oui.
Alors, Juliette n'avait plus beaucoup de voix, mais enfin, ça c'est encore plus émouvant. C'était voilà.
Et Johnny, il avait beaucoup de voix, lui.
Il avait beaucoup de voix, mais je n'ai jamais rencontré.
Et c'était quoi?
C'était chanter n'est pas jouer. Enfin, bon, pas. Ça s'écrit dans des conditions tellement bizarres, c'est que vous ne le rencontrez pas. Vous ne rencontrez même pas le manager. Vous rencontrez, c'est vraiment l'homme qui a vu l'ours,
Oui, c'est ça.
Et donc, vous écrivez dans le vide, comme ça, et en disant, il y a quelqu'un qui vous dit, ah non, ça ne pourra pas chanter ça. Bon, d'accord, ok.
Je remballe.
Et ça, il peut le chanter. Oui, ben, ça, il peut le chanter. Et c'était à partir d'un... On avait demandé une chanson à partir d'un interview qu'il avait donné. Il faisait son énième comeback au cinéma, et, où il disait la différence entre le plateau et la scène. Voilà. Et donc, chanter n'est pas jouer.
Bien sûr. Marion, on continue.
Après Johnny, après Rome, l'Australie avec un groupe à géométrie variable. Il s'appelle Pond. C'est un collectif qui a pour feuille de route le psychédélisme. Alors attention, pas le psychédélisme des années 70, rance et violet, non. Un psychédélisme luxuriant qui s'est ouvert à d'autres drogues, à d'autres sons comme ceux de la pop ou de l'électronique. Et en 10 ans, Pond a publié 10 albums. Le dernier, Tasmania, prouve qu'on peut ouvrir les portes de la perception, oublier de les fermer, tout en ayant une conscience citoyenne. Tasmania est donc le constat désabusé, désolé même, du désastre écologique et humain de leur pays, et même de la planète tout entière. Il y a les questions de l'eau, du machisme, de la honte d'être australien, de la responsabilité. Ça hante les 10 nouvelles chansons de Pond, des chansons issues d'un écosystème de boîtes à rythme et de claviers. Mais même si on sait que tout ça risque de très très mal finir, Laurent, plutôt que de sombrer dans la déprime et dans l'auto-apitoiement, justement, eh ben, nos Australiens, ils nous invitent à célébrer ce qui peut encore l'être. Alors je les cite, batifoler dans l'océan, faire du grabuge, se rouler dans l'herbe et tomber amoureux. Pond, Daisy, s'extrait de leur nouvel album Tasmania qui paraît demain chez Marathon Artistes.
Est-ce qu'il y a une chanson, si je l'aimais, vous dansez sur la piste? Il y a une chanson qui vous fait immédiatement danser, vous, Pierre Arditi?
Danser, pas forcément, non, mais enfin, il y a des chansons qui accompagnent ma vie, quelquefois depuis très 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 longtemps. Les premières chansons de Gainsbourg, par exemple. Le corps des uns sur les... La femme des uns sur le corps des autres. Oui, qui a été une très belle chanson et une orchestration de Goraguer qui est formidable. Ouais. Il y a un magnifique Goraguer, j'adore. On n'en parle jamais assez de ce mec-là. Et puis, j'aime Souchon. Je suis un peu... Je regarde un peu derrière. J'ai du mal. C'est très bien, ça me...
C'est autre chose.
Je sais pas, c'est très bien. Je veux pas, voilà. Ça me fait pas monter sur la table, mais c'est pas grave.
Jean-Roux, vous dansez?
Ouais.
Sur quoi?
Sur quoi?
J'adore Pastime Paradise, par exemple,
De Coolio?
Non. Non. L'original de Stevie
Bien
Wonder.
Bien sûr.
J'aime bien. Puis là, en ce moment, j'ai ma fille qui fait des chansons absolument géniales, donc.
C'est qui?
Elle s'appelle Joseph, elle est en train de. Elle a fini son EP. Et honnêtement, on n'a jamais rien entendu de pareil.
Allez, la dernière pour la route.
Allez, on termine ces nouveautés nouvelles avec celui qui héberge depuis une dizaine d'années dans son cerveau, dans sa voix, dans sa musique, Bob Dylan, Leonard Cohen et Velvet Underground.
Ça fait beaucoup.
Ça fait du monde, ouais. Et ça doit pas être facile tous les jours. Mais voilà, Kevin Morby, c'est son nom, il cristallise dans sa musique toute l'essence du folk et du rock des années 60. Alors, ça commence classiquement dans le Missouri, il apprend la guitare, il joue dans des groupes adolescents. Et puis, il part sur les routes comme un hobo, il sillonne son pays, comme Dylan l'a fait en son temps. Et il lui a d'ailleurs rendu hommage il y a quelques années. Et voilà, le décoiffé et décoiffant Kevin Morby a tenté ainsi la frénésie électrique de New York avant de rejoindre l'horizon lumineux de Los Angeles pour apaiser ses fantômes et laisser son Americana nomade atteindre des sommets d'harmonie et d'écriture. En 4 albums, tous plus beaux les uns que les autres, Kevin Morby réussit l'exploit de jouer la musique d'hier avec un tel talent qu'on a envie qu'elle soit aussi celle de demain. When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times the charm. 6, 6, 5, 4. Six times.
Allo, un extrait de Oh My God de Kevin Morby qui sortira le 26 avril prochain. Kevin qui sera en concert le 20 juin au Cabaret Sauvage à Paris. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Jeunes femmes sont mortes d'une manière affreuse, sans rien, tuées par cette saleté d'un enfant fluoramine.
Lanceur d'alerte, des héros manipulés. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.